tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons méditer sur ce passage de l'Évangile de Marc, au chapitre 12. C'est le récit de l'offrande de la veuve. Nous sommes dans la dernière partie de l'Évangile. Jésus est à Jérusalem. Sa fin est proche. Dans quelques jours, ce sera la Passion, la crucifixion. Et nous retrouvons ici Jésus dans le temple où il enseigne. Mais avant de lire ce texte, je vous invite à la prière d'illumination. Seigneur, permets-nous de déposer quelques minutes nos soucis, nos tracas, nos fardeaux, et de faire silence pour être à l'écoute de ta parole. Viens ouvrir nos cœurs et nos intelligences, pour que chacun de nous aujourd'hui puisse entendre une parole de toi, une parole qui nous fait réfléchir, qui nous remet debout, qui met en route une parole d'espérance. Amen.
Et nous allons lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44. Dans son enseignement, Jésus disait « Prenez garde aux scribes » qui tiennent à déambuler en grande robe, à être salués sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Eux qui dévorent les biens des veuves et affectent de prier longuement, ils subiront la plus rigoureuse des condamnations. S'étant assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit deux petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le tronc. Car tous ont mis en prenant de leur superflu, mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »
Jésus est dans le temple, il enseigne. Les grands prêtres et les scribes qui cherchaient à piéger Jésus ont disparu de la scène et Jésus n'a plus d'interlocuteur en face de lui. Au début de notre passage aujourd'hui, nous avons un court épisode où les scribes sont critiqués. L'intention de l'évangéliste Marc semble être de dénoncer la recherche d'honneur, de cupidité, l'hypocrisie des autorités religieuses. Il cherche les honneurs dans les places publiques et aussi dans les synagogues. Il se pavane dans de longues robes. À leur vanité s'ajoute la cupidité et l'hypocrisie. L'identité des scribes semble se construire sur un certain nombre de marqueurs identitaires religieux plutôt que sur la foi en Dieu qui permet de se tenir debout dans la prière et de vivre le pardon. Jésus critique ouvertement les scribes. On peut dire même que c'est une sévère mise en garde contre les scribes que prononce Jésus. Et la foule, évidemment, en jubile. Dans le verset 37 de l'évangile de Marc, donc au chapitre 12, juste avant notre passage, on pouvait lire « Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir ». Les attitudes de scribes décrites dans ce passage constituent l'inverse de ce que Jésus attend de ses disciples. Jésus demande à celui qui veut être son disciple d'être le dernier de tous et le serviteur de tous.
Ce sera bientôt la période de Noël, période où il va être particulièrement fait appel à notre générosité. Les occasions de donner ne manquent pas, ni les grandes causes, et il n'y a là rien que de très normal. Il est du devoir du chrétien de faire usage de ses biens pour soulager autant que faire se peut la misère du monde. Dans l'évangile de Marc, nous est conté le récit de Jésus qui, dans le temple, est littéralement impressionné par l'exemple d'une pauvre veuve qui, démunie de tout, donne malgré cela une offrande. Une offrande qui est aux yeux de Jésus celle qui surpasse en importance l'offrande des riches qui ont donné un peu de leur superflu.
L'offrande pour les Juifs était riche de signification et on peut la résumer en trois grandes tendances. Il y avait les offrandes pour soi, celles pour les autres, et celles pour le temple et le service divin. Offrande de demande, offrande de service et offrande de glorification de Dieu. Les premières devaient conforter une demande précise. À l'appui d'une pièce, un sacrifice était exigé, un peu comme si l'on cherchait à se concilier les bonnes grâces de Dieu. Donner assurait une réponse à la prière. Non seulement je te demande, mais aussi je te donne. C'est comme une sorte de contrat entre l'homme et Dieu sur le mode du donnant-donnant. Je donne pour que tu donnes.
Le second type d'offrande, celle de service, était plus particulièrement destinée aux pauvres. On la retrouve encore aujourd'hui dans la tradition des troncs dans les églises. Tronc pour les nécessiteux et autres laissés pour compte de la vie. Il s'agissait là de veiller à la cohésion du peuple, ne pouvant admettre qu'il y ait une part du peuple élu qui soit réduite à la misère. Grande collecte aujourd'hui pour les missions, afin de rétablir une certaine égalité, une certaine justice. Nous avons là une autre sorte de contrat, cette fois entre les hommes. Je donne à Dieu un peu de mes biens, pour qu'il soit redistribué à ceux qui ont moins de chance que moi. Je donne pour qu'il donne.
Et le troisième type d'offrande, celle de glorification, se retrouve aujourd'hui encore. Beaucoup sont prêts à donner pour des travaux d'embellissement des églises. Question d'image, question de signe. La beauté architecturale ou la qualité du service cultuel devant être l'image même de la grandeur du Dieu que l'on adore. Cette offrande servait aussi bien à l'entretien du temple qu'à celui des Lévites, ceux qui étaient chargés d'assurer la liturgie, ou encore les Lévites, c'étaient les prêtres. Une autre sorte de contrat, je donne pour que mon Dieu soit le plus grand.
dans ces trois types de contrats, comment comprendre l'importance accordée par Jésus à l'offrande de la veuve? Car les deux petites pièces qu'elle a données ne pouvaient lui garantir qu'un petit exaucement. De même, ce ne pouvait être qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins des miséreux. Et encore, quelle piètre image de la grandeur de Dieu que ce quart de sou! Et pourtant, pour Jésus, elle a mis bien plus que tous les riches qui passaient par là. Son offrande avait bien plus de valeur, de grandeur, et manifestait bien mieux la réalité de la gloire de Dieu, car elle y a mis tout ce qu'elle avait pour vivre.
Avez-vous remarqué cela? Tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais que va faire maintenant cette femme? Il ne lui reste plus qu'à mourir, maintenant qu'elle a tout donné. On ne sait pas si elle avait des enfants, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'avait pas d'allocation veuvage, ni aucune autre ressource. Les veuves de l'époque étaient laissées à leur dénuement. Elle, qui est déjà pauvre, s'appauvrit encore plus. La principale différence entre la veuve et les autres n'est en fait pas du tout la somme, mais l'intérêt. Tous les autres donnent parce qu'ils y ont d'une manière ou d'une autre intérêt. Ils sont tous dans la logique de l'un ou l'autre des contrats dont on parlait tout à l'heure. Qu'ils donnent pour appuyer leur prière, pour les pauvres ou pour Dieu, c'est finalement toujours pour eux-mêmes qu'ils donnent, pour leur bonne conscience. Tout simplement parce que cela fait partie d'une bonne vie en société que d'être donné et d'être solidaire. Si Dieu n'a pas besoin de sacrifice, l'être humain, quant à lui, a besoin d'en faire. Il a besoin de donner.
Le don, vous le savez, est source de plaisir pour celui qui peut donner. Vous êtes tous donateurs pour votre paroisse. Vous participez à sa vie. Vous participez aux collectes normales et extraordinaires. Loin de moi l'idée de vous inciter à donner encore plus. Vous qui donnez déjà avec joie et simplicité de cœur. Et c'est justement à cause de cela que vous comprenez ce que je veux dire et à quel point nous avons besoin de donner et à l'inverse combien il est frustrant de ne pas avoir les moyens de donner. Quand on aimerait donner pour une œuvre qui nous tient à cœur mais que l'on ne peut pas faute de ressources, on est pris d'une sorte d'impuissance et de tristesse. Celui qui donne maîtrise sa vie. Celui dont le cœur est desséché au point de ne plus pouvoir donner ou vouloir donner perd en réalité tout contrôle sur les événements. Le don, en fait, enrichit le donateur. Voilà ce que je veux dire lorsque je parle de l'intérêt qu'il y a à donner.
Notre veuve, elle, c'est l'inverse. Elle n'a justement pas intérêt à donner. Car c'est pour elle quasiment une question de vie ou de mort. Elle a laissé dans le tronc son nécessaire. Mais vous me direz qu'il est bien étrange que Jésus ait loué cette femme. Il aurait plutôt dû lui dire de garder ses piécettes. Car Dieu n'en a pas besoin, les offrandes des riches suffisent bien. Elle aurait alors encore pu tenir un jour ou deux. Et alors, une fois les sous dépensés, elle n'aurait plus rien eu de toute façon.
C'est justement parce qu'elle n'a plus rien à perdre qu'elle peut tout donner. En agissant ainsi, elle refuse la fatalité de sa misère. Puisque de toute façon, elle n'a plus rien. Inutile de garder ce rien, autant en faire quelque chose de bien. Elle retrouve ainsi sa vraie liberté. Par son don, elle n'est plus une pauvre veuve, mais elle devient l'égale de celui qui donnerait toute sa fortune. Et rappelez-vous le jeune homme riche, lui qui a reculé devant le don. Elle est enfin sortie de la logique des contrats et des sacrifices volontaires. Si la veuve est restée un exemple pour l'Église, c'est sans doute en raison de son attitude, car elle nous enseigne deux choses, sur le Christ et sur nous-mêmes.
Elle nous enseigne quelque chose sur nous-mêmes d'abord, car loin de tout idéal ou de toute grandeur, cette femme est tout simplement bonne. Pour elle, malgré le dénuement, malgré la fin toute proche, le don va de soi. Tout comme pour nous, l'amour devrait aller de soi, car nous savons que c'est là que se trouve notre vérité de croyant. Il importe peu que nous soyons très savants, très pieux ou très généreux. Il importe bien plus que nous vivions en toute simplicité ce que nous avons compris de l'Évangile, dans l'honnêteté et dans la sincérité du cœur. Sortir à notre tour des logiques de contrat avec Dieu et avec les autres. Je te donne pour que tu donnes, mais au contraire, je te donne parce que cela va de soi et cela ne peut pas aller autrement.
Et cela va bien plus loin encore que l'offrande, que nos offrandes. Il en va de nos vies. Là aussi, il nous faut sortir de la logique des négociations et des tractations avec Dieu et avec les autres, du genre « je vis chrétiennement pour que Dieu me donne un jour la vie éternelle ». Nous n'avons pas à rechercher un intérêt quelconque dans notre vie de foi, mais nous avons à vivre chrétiennement parce que cela va de soi, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Ce n'est pas l'appât d'une récompense au ciel qui doit nous motiver, mais bien plus simplement l'idée que la compassion, l'ouverture du cœur, l'éthique de la vie chrétienne valent la peine d'être vécues.
Quant au Christ, la veuve nous dit quelque chose de l'attitude de Jésus lui-même. Car 3 jours après cet épisode, il sera crucifié. Et nul doute qu'il aura gardé le souvenir de cette femme et qu'il est mort comme elle. Lui aussi a donné jusqu'à son dénuement le plus complet. C'est les mains vides qu'il se donne. Sur le chemin du Golgotha, Jésus est comme la veuve, profondément triste, mais sans aucune révolte, sans désir de revanche ni de vengeance, sans non plus être dans la logique de donnant-donnant. Le Christ ne s'est pas sacrifié, s'offrant comme victime à je ne sais quel Dieu avide de sang. Vie pour vie, la vie du Christ contre la vie des hommes, sang pour sang, le sang du Christ contre le sang des hommes. Dieu donnant-donnant, n'acceptant de sauver qu'à condition de la mort de son propre fils.
Bien plus que de sacrifice, c'est de dénuement qu'il est question à Golgotha. De cet abandon complet de soi qu'a accepté Jésus, celui qu'avec Paul dans l'Épître aux Philippiens, nous croyons s'être dépouillé en devenant semblable aux hommes pour finalement aller à l'humiliation suprême, celle de la mort sur une croix. La veuve ne sacrifie rien en amenant son offrande. Pour elle, tout est déjà perdu. C'est ainsi qu'elle est en fait une image du Christ.
pour nous aujourd'hui? Quand nous donnons, essayons de regarder comment on donne. Essayons de donner de notre essentiel, de notre vie au service de Dieu. Parfois, nous donnerons de notre abondance, mais essayons d'y mettre du sens, de faire nos dons pour les autres et pour le service de Dieu. L'essentiel, c'est le lien avec Dieu, avec le Christ. Nos offrandes, qu'elles soient importantes ou très modestes, cela n'a pas d'importance. L'Église en a besoin pour vivre, pour annoncer l'Évangile, pour l'enseignement des enfants et, plus concrètement, pour payer les pasteurs, les prêtres, pour avoir des bâtiments confortables où il fait bon se retrouver. Oui, tout cela est vrai, mais l'essentiel est ailleurs. C'est notre relation avec Dieu, avec le Christ qui nous fait vivre, et l'amour du prochain en découle. C'est parce que nous avons une relation avec le Christ que nous faisons des dons. Mais nous n'offrons pas seulement de l'argent. Nous faisons aussi le don de notre temps et le don de notre vie. Quand nous faisons un don, nous déposons notre reconnaissance. Notre reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu, vécu, partagé. Nous déposons peut-être, comme la veuve, tout notre être aussi, tout ce qui fait notre identité. Nous déposons nos joies, nos peines, nos difficultés, nos qualités, nos doutes. Nous déposons une part de nous-mêmes. Placer notre vie devant Dieu nous éloigne de toute hypocrisie, des savoirs orgueilleux. Placer notre vie devant Dieu nous renvoie à l'essentiel. Placer notre vie devant Dieu nous ouvre à la liberté pour que nos dons, nos gestes, nos paroles nous engagent tout entier.
Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est vérité. Merci de nous en instruire. Permets que nous sachions tous trouver les gestes qui redonnent vie et espérance. Permets que nos égoïsmes ne soient pas encouragés par l'ambiance du monde et qu'au contraire, nous devenions généreuses et solidaires. Permet que nous n'oublions pas que même petits et pauvres, nous pouvons offrir beaucoup, si c'est de tout notre cœur. Seigneur, merci de nous offrir le tien. Amen. Et je vous dis qu'il y a culte tous les dimanches à 10h30 au temple à nouveau 20 rue Saint-Thomas, depuis la fin du confinement. Nous serions heureux de vous y accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.